Croyants, ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes. Vous emmener avec nous sur cette route magnifique de la fraternité, vous offrir quelques-unes de nos réflexions sur la foi, l'humanité, la conscience, vous faire partager des expériences porteuses de sens et d'espérance, et pour nous, un bonheur qui se renouvelle chaque semaine. Mais nous rêvons de plus, de beaucoup plus. Nous rêvons d'être ensemble avec vous pour bâtir très concrètement cette société à laquelle nous croyons, nous, croyant ensemble vers la paix. Dom Helder Camara, évêque d'Olinda et de Recife au Brésil, prétendait que lorsque l'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Alors que lorsque l'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, ajoutait-il, est souvent le ressort de l'histoire. Merci à vous d'accepter de partager chaque semaine ce rêve et cette aventure avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous emmener de l'autre côté de la Méditerranée et vous raconter une histoire de foi, d'amitié et de fraternité peu banale.
Vous écoutez RCF sur la croisette sur 96.8.
Bien, nous sommes à nouveau rassemblés comme pour chaque émission du vendredi. Nous avons donc aujourd'hui dans ce studio Jean-Philippe Dépernay, membre de Fondatio. Vous travaillez au service du partenariat entre l'abbaye de Lérins et Fondatio. Vous êtes un des responsables de Vivre Ensemble à Cannes et particulièrement responsable des événements dans ce qu'organise Vivre Ensemble à Cannes. Nous avons également avec nous frère Vladimir, père abbé de Lérins, qu'on ne présente plus, un habitué de cette émission, qui vient chaque fois apporter sa parole. Et avec nous également frère Didier Vernet, dominicain, directeur de la revue du Rosaire et du pèlerinage du Rosaire. Vous êtes dans la communauté de Nice et vous avez récemment, et vous continuez de diriger un groupe de travail sur Maurice Zindel, dont vous êtes un spécialiste et vous faites également partie de Communion 06, dont il a été question dans ces émissions tout au début, puisqu'il y a un lien très proche entre Communion 06 et Vivre Ensemble à Cannes. Alors, Jean-Philippe Dépernay, alors bonjour à chacun.
Bonjour.
Jean-Philippe Dépernay, vous allez être le premier à prendre la parole. Je disais donc que vous êtes un des responsables de Vivre Ensemble à Cannes et plus particulièrement responsable de l'organisation, de la promotion et puis de la gestion au sens large du terme de cette pièce dont nous allons parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots avant de nous le commenter sur le Vivre Ensemble à Cannes pour ceux qui nous écouterez pour la première fois aujourd'hui. Vivre Ensemble à Cannes, ça organise quoi? Ça fait quoi?
C'est ça. Alors, Vivre Ensemble à Cannes, ça existe depuis bientôt 2 ans. Hein. C'est né à l'initiative de quelques chrétiens au départ qui a été sollicité par rapport à l'événement, le 25e anniversaire d'Assise.
Oui.
Se dire, qu'est-ce qu'on fait en tant que croyant? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit en la paix si on est croyant?
Oui.
Et est-ce qu'on va aussi se bouger? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Donc, sur Cannes, un petit groupe s'est rencontré et a sollicité à cette occasion du 25e anniversaire d'Assise les responsables religieux de chaque communauté,
oui.
Catholiques, protestants, mais aussi la communauté juive et aussi la communauté de l'islam, les musulmans.
Oui.
Et on a eu, il est vrai, à ce moment-là, on était quelques-uns, un retour très favorable de ces personnes en disant « si vous faites quelque chose, on ira ».
Les bouddhistes aussi?
Les bouddhistes sont venus un petit peu après.
Hey.
Et ils se sont aussi vraiment mobilisés.
Uh-huh.
Et ça a été l'idée, on a construit ensemble cette idée de faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il faut, un festival nous est venu, quelque chose de festif. Pas une rencontre de sommités, uh-huh. de théologiens, uh-huh. d'intellectuels, uh-huh. mais un partage et être ensemble pour une fête. Et c'est le festival Vivre Ensemble qui a eu lieu le 13 novembre 2011.
D'accord.
Voilà, ça c'est le premier.
Et vous organisez d'autres choses également?
Alors il y a eu le deuxième festival donc le en juin 2012.
Oui.
Pour situer à chaque fois les festivals, il y a une marche pour la paix, une marche sur la croisette qui réunit à peu près 1000 personnes.
Oui.
Donc on a été complètement dépassé et on a vu que vraiment ça correspondait à quelque chose. Il y a aussi les petits groupes, donc à part les festivals. Le prochain festival, ça sera le 29 septembre.
Oui.
Vous pouvez noter.
Festival numéro 3. Donc.
Festival numéro 3, d'accord. 29 septembre 2013. À part les festivals, il y a des petits groupes, ce qu'on appelle les petits groupes, nous, mosaïques, donc de plusieurs couleurs, et des personnes, 7-8 personnes, de différentes communautés, différentes confessions, se réunissent tous les mois et demi, 2 mois, pour un partage. Un partage tout simple, convivial, pour apprendre à mieux se connaître.
C'est
voilà.
Ça.
Et ça fait vraiment, c'est très très beau. Très beau ce
d'accord.
qui se passe.
D'accord. Donc vous organisez également, je crois savoir, des ateliers de cuisine et des ateliers de différentes sortes et des événements aussi.
Par exemple. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous parler donc de l'événement qui va se dérouler à Cannes le 7 avril prochain?
Alors c'est ça. Ça sera à l'Espace Miramar. À l'Espace Miramar à Cannes. Oui. Donc c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Pierre et Mohamed. On va vous en parler pendant toute cette émission. Et on a choisi de faire venir cette pièce. Ça fait à peu près depuis le Festival d'Avignon en 2011 où elle a été créée. Elle tourne dans toute la France, à peu près 150 représentations. Et pour nous, ça va être dit, mais elle est vraiment symbolique d'une rencontre possible, d'une ouverture de cœur, d'un dialogue. Et là, c'est entre un chrétien et un musulman. Voilà. Pierre et Mohamed. Donc, on espère faire salle pleine. On est à peu près sûr. Donc, et c'est l'Espace Miramar le 3 juin. On en parlera à la fin de l'émission.
D'accord. Et vous avez entendu parler de cette pièce comment ? Comment est-ce que c'est venu ?
Alors, en fait, c'est une pièce qui a été jouée à Avignon et qui a été jouée auprès de responsables religieux qui se rencontraient à Lourdes. Et dans ces responsables, il y a quelqu'un qu'on connaît bien, qui est à côté de moi, c'est le père Vladimir.
Alors frère Vladimir, je crois savoir que c'est vous qui avez inspiré cette idée pour avoir vous-même participé, assisté à cette pièce dans un cadre tout à fait particulier et qui était à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a touché dans cette pièce et ce qui vous a donné envie de la proposer comme un événement possible pour le vivre ensemble à Cannes ?
Alors il y a en fait trois choses qui m'ont touché dans la pièce à des niveaux très différents. D'abord, la première chose, c'est qu'elle parle de Mgr Claverie, qui pour moi évoque un souvenir très, très précis, non pas de sa personne, mais qui est le jour de sa mort. C'est en fait peu de temps après la mort des moines de Tibirine, aussi quelques mois. Et nous avions la messe télévisée à l'abbaye de Lérins. Et donc on avait fait la répétition le samedi, et dans l'après-midi, on est venu nous dire qu'il y a Mgr Claverie qui a été assassiné. Et donc, on va raccourcir la messe pour présenter quelque chose à sa mémoire. Et donc, on a tout reconstruit. Alors, je me souviens très bien, on était dans le cloître de l'abbaye. On attendait que les 4 minutes consacrées à Mgr Claverie se passent. Et on les entendait. C'est-à-dire que pendant les 4 minutes, avant de célébrer la messe, on a entendu sa voix. C'était une interview qu'il avait donnée relativement peu de temps avant à France 2, qui parlait du dialogue entre chrétiens et musulmans et du sens que pouvait avoir la présence de l'Église en Algérie. Et pour moi, lié à la mémoire des moines de Tibirine, c'est quelque chose de très fort. La deuxième raison, c'est parce que cela me semble quelqu'un qui parle excellemment bien, et la plus grande partie de la pièce, du moins ce qu'il dit, est tirée de ses écrits, du dialogue entre musulmans et chrétiens, d'un dialogue en vérité avec les difficultés. C'est quelqu'un qui est né en Algérie, qui ne connaissait pas le monde musulman et qui petit à petit a été amené à le découvrir, et c'était très touchant. Et puis la troisième chose, c'est la pièce elle-même. Donc j'ai assisté à cette pièce à Lourdes, à une réunion de supérieurs majeurs catholiques, donc de supérieurs de communautés religieuses, hommes et femmes. C'était à Lourdes, dans un cadre très particulier. Il y avait parmi eux les supérieurs de communautés comme les Pères Blancs, les Sœurs de l'Assomption, etc., qui ont perdu des religieux et des religieuses en Algérie à cette époque-là. Et c'est un très, très beau spectacle au niveau des textes, au niveau de la musique, au niveau de la mise en scène.
Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le pitch, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire le thème de l'argument de la pièce ?
Alors la pièce, c'est un seul acteur qui joue deux personnages, Pierre, c'est-à-dire Mgr Pierre Claverie, et il dit des textes qu'a écrit Mgr Claverie qui racontent sa découverte progressive de l'Algérie et ce que veut dire pour lui le dialogue avec les musulmans. Et puis l'autre personnage, c'est Mohamed, un jeune musulman, ami de la communauté chrétienne, qui servait à cette époque-là de chauffeur à Mgr Claverie, qui l'attend alors qu'il revient d'Alger par avion, et qui raconte de son côté, sa découverte par un musulman de ce qu'est un évêque et de la communauté chrétienne, avec toutes les peurs que ça peut provoquer. Et je veux dire...
Et en sachant qu'ils ont été l'un et l'autre tués en même temps dans une explosion d'attentats.
C'est ça donc.
Hein, en 1996.
Tous les deux ont été tués ensemble. Monseigneur Clavery ne voulait pas, mais à chaque fois qu'il s'arrêtait, il voulait lui porter sa valise pour emmener sa valise jusqu'à son appartement. C'est en ouvrant la porte que la bombe a sauté. Et tous les deux ont eu leur sang qui était mélangé. Et ce qui est très émouvant, c'est leurs deux textes, donc celui de Pierre et celui de Mohamed, aboutit à la conclusion inévitable qu'ils vont finir par mourir, que c'est le prolongement logique de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils croient, et qu'il faut continuer jusqu'au bout. Alors c'est une pièce très émouvante, je ne peux rien vous cacher. J'ai voulu dire qu'elle soit représentée à Cannes. J'ai beaucoup pleuré, et je me suis dit que ça pouvait toucher beaucoup de monde, et parce que ça montre aussi la difficulté du dialogue. C'est une pièce vraie qu'il y a des gens qui s'y opposent et qu'il faut se donner pour cela.
RCF Côte d'Azur.
L'essentiel, tout près de chez vous, à Cannes, sur 96.8.
Alors frère Didier Vernet, vous êtes là aujourd'hui à plusieurs titres, mais en particulier au titre du fait que vous faites partie de la communauté des Dominicains et que Monseigneur Clavery était dominicain et que à la suite de cette histoire que vient de nous relater frère Vladimir, l'un d'entre vous de votre communauté s'est emparé en quelque sorte du sujet et a comment c'est arrivé? Comment est-ce que la communauté a hérité de cette aventure, de cette histoire, et comment est-ce qu'elle a senti qu'elle avait à s'en faire l'écho?
Je dois dire tout d'abord qu'une relation particulière qui s'est tissée de manière mystérieuse entre Pierre Clavery et moi-même. Je voulais aller pour mes 40 ans, faire un petit séjour sur les pas du père de Foucault. Et j'en ai avisé Pierre Clavery qui m'a dit « surtout pas, ne viens pas ». Donc c'est les paroles qui me sont restées en mémoire. Et donc j'ai été très touché lors de l'annonce de son assassinat avec son chauffeur et ami Mohamed. Comment l'histoire nous est arrivée? Adrien Candiar, qui est maintenant au Caire, jeune frère dominicain, ancien élève de l'École normale supérieure et de sciences politiques, a saisi qu'il y avait quelque chose à dire sur cette histoire de Pierre et de Mohamed. Donc, comme l'a dit le père Vladimir, il s'est inspiré des textes écrits par Pierre Clavery, mais pour Mohamed, il y avait quelques petites notes, c'est tout. Et le reste, il l'a imaginé, mais dans une imagination habitée, si je puis dire. Et j'ai eu la joie, en rentrant un soir de prédication, de me brancher sur RCF et d'entendre l'interview d'Adrien Candiar sur les ondes de RCF, où il racontait la genèse de l'histoire. Il disait que lorsque la pièce a été jouée à Oran, la famille de Mohamed était là. Il redoutait un petit peu la réaction de la famille du fait que l'écriture qu'il a produite était quand même imaginée. Et à la fin de la pièce, la famille de Mohamed est venue le voir en lui disant « c'est très bien ». Donc il avait bien perçu ce qui existait comme relation profonde entre Pierre et Mohamed. Et donc... la dominicanité est concernée au plus haut point par cette réalité, puisque les Dominicains sont toujours en Algérie dans une présence renouvelée. Et c'est l'ouverture à l'autre dans la rencontre, l'échange, le dialogue et la construction fraternelle. Et ce qui, je crois, étonne même le frère Adrien, je l'ai entendu, me semble-t-il, c'est ce succès, puisque c'était destiné à être joué une année simplement. Et cela se poursuit.
Et ce succès des deux côtés de la Méditerranée?
Des deux côtés de la Méditerranée.
Avec une pièce reçue également en Algérie de façon ouverte, ouais. Et acceptée, c'est ça que vous nous dites?
Et acceptée, accueillie par tout public, dans des églises, dans des théâtres, dans des maisons de la culture, c'est merveilleux.
On peut considérer donc, et on peut réagir l'un d'entre nous trois, nous quatre, à cette fin de témoignage.
Oui, et je voudrais ajouter que j'ai eu la joie en juillet dernier d'aller voir la pièce en Avignon et de me réjouir de cette interprétation de Jean-Baptiste et puis de me réjouir aussi de cet excellent percussionniste qui est Francesco Agnello avec l'instrument qu'il a découvert qui s'appelle Hang.
Jean-Baptiste Germain, donc l'acteur principal et unique de cette représentation que nous entendrons dans la deuxième partie de l'émission, qui est à Paris, qui n'a pas pu se déplacer parce que pris par ses obligations, mais que nous aurons son témoignage et nous l'entendrons par téléphone. Est-ce qu'on peut, à la fin de cette première partie, se dire en deux mots, le sentiment que j'ai en nous entendant, c'est que vraiment, frère Vladimir, vous avez été inspiré parce que ça me semble aller pleinement dans ce que nous recherchons à faire sur tous les plans dans le Vivre Ensemble à Cannes.
Alors je crois oui. D'abord parce que c'est un événement signifiant et que le Vivre Ensemble veut vivre d'événements signifiants. Ensuite parce que c'est beau, c'est artistique. Et que c'est la beauté qui sauvera le monde.
Il me semble que nous avons vraiment la chance, hein. On a la chance que cette pièce ait été créée, que ces hommes aient existé, qu'ils soient rencontrés, et puis de pouvoir en être témoin un petit peu de leur histoire, donc pour le 7 avril ici à Miramar à Cannes. Voilà.
Alors on se retrouve donc dans un tout petit instant. Nous sommes donc dans l'émission Croyants, Ensemble vers la paix, une émission produite par Vivre Ensemble à Cannes qui reçoit aujourd'hui Jean-Philippe Dépernay, frère Vladimir et frère Vernet au sujet d'un événement qui va avoir lieu à Cannes le 7 avril prochain, une pièce de théâtre qui s'intitule Pierre et Mohamed et qui relate la relation entre ces deux personnes et leur fin commune, comme nous le disions dans la première partie de l'émission. Nous allons dans quelques instants avoir au micro à distance puisqu'il est à Paris l'interprète de cette pièce, Jean-Baptiste Germain. Jean-Baptiste Germain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'interprète de la pièce, donc Pierre et Mohamed, qui traite de l'amitié et de la fraternité entre des personnes de race, de situation et de religion différentes. Pierre, qui au demeurant s'avère être un succès actuellement, puisqu'elle affiche dans plus de 70 villes de France.
Exactement.
Vous, à titre personnel, Jean-Baptiste, rien ne vous prédisposait à une carrière de comédien. Votre parcours professionnel commence dans la finance, où vous y avez un certain succès, c'est ça? Je ne me trompe pas?
Non, vous ne vous trompez pas, j'ai un parcours effectivement qui est un petit peu atypique, puisque j'ai commencé par faire une école de commerce après mon bac.
Et ensuite,
j'ai travaillé effectivement 5 ans dans le conseil en finances publiques.
Et c'est une double rencontre, hein, l'une avec Francesco Agnello, metteur en scène et percussionniste, et une œuvre, la pièce de théâtre d'Adrien Candiard qui relate l'histoire justement de Mgr Claviri, Pierre et Mohamed, qui vous a fait bifurquer dans votre itinéraire. Je crois que ça serait intéressant que vous nous disiez comment cela s'est passé, qu'est-ce qui vous a bougé au point de vous faire changer ainsi de trajectoire.
Alors en fait, pour être plus précis, j'ai d'abord décidé de me lancer dans le théâtre, donc j'ai quitté mon emploi, et puis à ce moment-là, donc j'ai appris que la pièce Pierre et Mohamed était créée à Avignon. Je l'ai appris simplement parce que c'est une pièce qui a été créée par deux frères dominicains qui sont présents au Festival d'Avignon, qui s'appellent le frère Nicolas Burle et le frère Thierry Hubert. Et il se trouve que Nicolas Burle est mon ami d'enfance, donc appris que je changeais de carrière, il m'a invité à Avignon pour les accompagner et tracter pour cette pièce, qui à l'époque était jouée par Nazim Boudjna. Et là, effectivement, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois la pièce, et ça a été la découverte, d'abord la rencontre avec le metteur en scène et musicien Francesco Agnello, et puis le comédien aussi de l'époque qui s'appelait Nazim Boudjna de la Comédie Française. Et ça a été aussi une rencontre avec Pierre Claveri, que je ne connaissais pas, puisqu'en 1996, au moment des événements, j'avais 13 ans et je me souvenais, comme beaucoup de gens, des moines de Tibérine, mais Pierre Claveri, c'est pas un nom qui me parlait beaucoup. Et voilà, j'ai découvert son texte, j'ai découvert qui il était, son histoire, et puis je me suis mis à lire un ou deux de ses livres, et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et suite à ça, la pièce a été programmée à Paris en janvier 2012, donc il y a un peu plus d'un an. Et Nazim ne pouvant pas continuer à cause de ses engagements, j'ai rencontré Francesco pour passer une audition, tout simplement, et le remplacer, voilà.
Oui, écoutez, c'est une belle histoire. Est-ce qu'on peut dire que la pièce, sur le fond, a été un moment ce qu'elle véhicule comme, comme valeur et comme, comme profondeur? Est-ce que, dans votre chemin personnel, est-ce que, on peut considérer que ça a été un événement marquant et suffisamment déterminant pour vous faire changer à ce point dans votre vie?
Ah oui, très clairement, pour être honnête, c'est quelque chose... D'abord, moi, j'ai rencontré Pierre, sa parole, Mohamed et son engagement. Ça m'a beaucoup marqué. Moi qui suis d'une éducation catholique, je suis né dans une famille catholique pratiquante. Et puis vous savez, en grandissant, on oublie un petit peu, on abandonne un peu tout ça. Et c'est vrai que ça a été personnellement un grand coup de fouet dans ma foi, vraiment. Et en parallèle, je me suis aussi marié l'année dernière, donc j'ai fait une préparation au mariage. Donc les deux événements en même temps m'ont vraiment réveillé. Et c'est sûr que ça m'a aidé à m'engager dans le théâtre. Et qui plus est, à essayer de me définir en tant que comédien. Alors, je ne veux pas dire par là que je suis comédien exclusivement catholique ou jouant des pièces ayant des sujets catholiques, mais c'est vrai que ça m'a conforté à la fois dans ma foi et dans mon métier, dans ma reconversion, de me dire que je jouais une pièce dont les valeurs transmises sont des valeurs auxquelles je crois et j'adhère profondément.
Ah, c'est intéressant. Et est-ce que dans le même sens... Est-ce que vous percevez, parce que c'est étonnant cette pièce quand même, qui a été lancée dans le cadre du Festival Off de d'Avignon, je crois qu'il y a 800 ou 900 spectacles qui se passent en même temps, en été, dans la chaleur, etc. Enfin, c'est un défi incroyable. Et pourtant, cette pièce qui aurait pu demeurer confidentielle, on aurait pu imaginer qu'elle pouvait demeurer confidentielle, est donnée dans, c'est ce que dit la petite note de présentation de la pièce, dans 70 villes en France. Il y a eu je ne sais combien de milliers ou dizaines de milliers de spectateurs. Cet engouement, c'est dû à quoi selon vous? Ça touche quoi dans les personnes?
Alors en fait, je pense effectivement au début, on pensait qu'elle resterait confidentielle parce que l'histoire d'un évêque, c'est vrai que ça n'est pas quelque chose de très très populaire. Et Quand on écoute le texte de la pièce, finalement, Pierre Clavery ou Mohamed parlent peu de religion. Il y a une toute première partie qui est consacrée à ça, mais après, il y a une vraie réflexion sur la manière dont on peut percevoir l'autre, dont on vit avec l'autre, et dont on vit en société, finalement. Oui. Dans une situation particulière qui est celle de la guerre d'Algérie, enfin, la guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire, qui exacerbe un petit peu l'engagement de chacun, mais je pense que ça parle beaucoup aux gens parce que justement on dépasse largement le cadre de la religion ou de la croyance, mais on a par cette pièce des clés de réflexion sur la manière dont aujourd'hui on peut définir notre relation à l'autre. Et c'est ça qui, à mon avis, touche beaucoup les gens.
Et, écoutez, nous sommes dans le studio, nous sommes 2 sur 4, nous sommes 50% à ne pas avoir participé à la pièce. Oui. Mais je suis certain que les 50% dont je fais partie, qui n'ont pas participé encore, vont être heureux de vous rencontrer à l'occasion de votre venue à Cannes le 7 avril prochain.
Bah écoutez, c'est un plaisir partagé.
Bien, messieurs dans le studio, vous restez en ligne, Jean-Baptiste? Est-ce que vous voulez l'un ou l'autre réagir à ce qui vient d'être partagé par Jean-Baptiste Germain?
Moi qui ai eu la joie de voir la pièce, donc de vous entendre, de vous voir évoluer et d'entendre la belle percussion de Francesco Anillo, je me retrouve bien dans ce que vous avez dit, bien entendu. Et ce qui m'a marqué, c'est la manière dont vous habitiez l'un et l'autre personnage, Pierre d'un côté et Mohamed de l'autre, avec le changement, je dirais, de musicalité dans la voix, dans l'accent. Un peu pied noir pour Mohamed, moins pied noir pour Pierre, bien qu'il avait quand même ses origines pied noir lui aussi. J'ai beaucoup apprécié cette sobriété du jeu et cette vivacité de présence. Merci.
Ben, merci à vous.
Jean-Baptiste, c'est un Dominicain qui vient de vous parler. Hein. Frère Dominique Vernet. Frère Didier Vernet, pardon.
Bonjour, merci beaucoup.
Donc, c'est un commentaire autorisé. Et puis, peut-être, frère Vladimir, père abbé de Lérins.
Oui, alors moi, je vous ai vu jouer à Lourdes pour l'Assemblée générale de la COREF. C'est difficile de dire quelque chose. Pour moi, cette pièce, ça a été... Parce que, je pense, pour tous les religieux français, cette histoire évoque des souvenirs, un grand moment d'émotion et peut-être d'émotion d'autant plus forte que c'était fait très sobrement, qu'on n'était pas dans le pathos ni dans le drame, mais à la fin, la conclusion de cette pièce, qui est la mort des deux ensemble, parce que c'est la conclusion de leur vie, arrive tout simplement et tout naturellement. Et c'est ça qui m'a touché le plus.
Oui, oui, c'est vrai. Alors, moi, c'est vrai que c'est faut rendre hommage à Francesco, qui, je pense, par la sobriété de sa mise en scène et la volonté de ne pas vouloir reconstituer quelque chose, parce que, bon, physiquement, je ressemble ni à Pierre ni à Mohamed, on voulait laisser la place la plus importante à leurs paroles et faire en sorte à ce que tout ce qui se passe sur scène, que ce soit d'ailleurs la musique, les percussions de Francesco ou mon jeu, que ce soit vraiment au service de la parole. Parce que c'est surtout ça qu'on veut transmettre, plus qu'une pièce de théâtre qui serait une reconstitution d'un événement passé.
C'est ça. Et je crois que c'est vraiment réussi. C'est vraiment au service de ces paroles qui sont des belles paroles.
Ben oui.
Jean-Philippe, ça vous donne encore plus envie d'être présent et d'y amener beaucoup de monde le 7 avril.
C'est clair.
Votre
c'est
réaction clair. Sur l'intervention de Jean-Baptiste ?
L'intervention, c'est que d'abord, je le remercie de venir chez nous. Et puis, c'est ça qu'on est. Il y a une parole, il y a quelque chose qui va se donner, quelque chose de vrai, de beau et qu'on a envie de partager. Voilà.
RCF Côte d'Azur.
L'essentiel, tout près de chez vous, à Cannes, sur 96.8.
Alors, Jean-Baptiste, restez surtout en ligne jusqu'à la fin de l'émission parce que j'aurai une petite surprise et je crois que ça sera une petite surprise pour vous aussi.
Ah. Hein,
alors, restez bien à l'appareil. Hein.
Très bien.
Alors, nous parlons donc depuis tout à l'heure donc de cette date du 7 avril. Est-ce que, Jean-Philippe, vous qui avez en charge l'organisation et la promotion de cette pièce, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui nous permettent d'être sûrs de pouvoir rentrer dans la salle si je décide d'y aller et d'avoir comment ça se passe, comment ça s'organise.
C'est ça. Alors, dans l'histoire du vivre ensemble, on est donc plusieurs communautés. Et on a eu une réunion il n'y a pas longtemps où il y a eu une distribution en avance de billets, des billets pour cette soirée-là, par communauté, les catholiques, les protestants, les communautés musulmanes, la communauté juive, et puis il y a un certain nombre d'autres billets, voilà. Donc on peut s'adresser, c'est la promotion se fait par les communautés parce qu'on veut que ça soit à la fois pour le grand public que vous êtes, vous qui nous écoutez, et aussi au sein des communautés particulièrement de Cannes, voilà, mais aussi de toute la région. Donc les possibilités, c'est achat de billets directement à Cannes, donc dans les paroisses catholiques, en tout cas Notre-Dame du Bon Voyage et Église du Prado, hein, c'est simple, il y a des permanences, il y a un certain nombre de billets qu'on peut acheter là-bas directement, auprès des responsables d'autres communautés, si vous entendez d'une communauté musulmane, juive, bouddhiste, il y a aussi des billets, et sinon ça se fait sur Internet, les réservations, vous avez le site Internet, alors c'est vraiment facile, puisque c'est Vivre ensemble à Cannes, en minuscule, Vivre ensemble à Cannes. Et avant, vous mettez info. Donc info.vivreensembleacannes.org. Vous envoyez un mail et on vous envoie les confirmations et comment acheter les billets, tout ça, et les régler, et être sûr d'avoir une place. Donc on insiste un petit peu sur cette démarche d'acheter sur place ou d'acheter par Internet, parce qu'on ne sait pas du coup, le 7 avril, s'il restera des places à 15h. C'est donc à 15h.
Oui, voilà. Les horaires sont donc ?
Donc c'est 15h pour l'accueil du public, après 16h la représentation de la pièce, et à 17h un échange avec les comédiens, avec le metteur en scène, dans la salle, et aussi avec quelques animateurs du Vivre Ensemble,
d'accord,
et quelques responsables religieux qui seront là.
D'accord. Et entre 15h et 16h, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier ?
Entre 15h et 16h, il y aura ça va être sympa en tout cas, c'est l'accueil sur place, avec ça. Quelques petites gâteries éventuellement.
Peut-être la présentation
du Vivre Ensemble, sur écran, il y aura quelques...
D'accord.
Ça va être... On vous invite en tout cas à être de préférence à 15h, le dimanche 7 avril, à Miramar, donc à Cannes.
Bien, eh bien, nous serons, j'en suis certain, nombreux à être présents. En tout cas, j'espère que cette émission contribue et contribuera à éveiller l'intérêt et à donner envie à chacun de participer à cette représentation. Alors, nous nous acheminons vers la fin de l'émission, et je disais tout à l'heure à Jean-Baptiste, toujours là ?
Oui, toujours.
Et une petite surprise, nous avions imaginé avec Pauline Soulac, qui est l'animatrice de ces émissions hein, de croyance oui. envers la paix, et qui malheureusement a été contrainte de ne pas assister aujourd'hui et de ne pas animer cette émission parce que son papa a eu un accident, elle a dû se rendre à son chevet. Et on souhaite d'ailleurs à son papa tout le rétablissement le plus rapidement possible hein, et la meilleure santé possible. Et nous avions cherché à contacter quelqu'un, éventuellement d'avoir un contact téléphonique avec lui au cours de l'émission. C'est le cheikh Khaled Bentounes, qui a été un grand ami de Pierre Claverie, que le cheikh a connu quand il était jeune. Et il avait fait une forte impression, je crois, à Pierre Claverie. Et ça n'a pas été possible parce qu'au moment où nous enregistrons, là, où nous passons notre émission, le cheikh est en Algérie, dans un aéroport, n'a plus son téléphone algérien et n'a pas encore son téléphone français. Ça n'a pas été possible. Mais un ami algérien est rentré hier ou avant-hier d'Algérie et est arrivé avec une surprise qu'il m'a faite ce matin, qui est une lettre du 25 décembre 1982 de Pierre Claverie à sa maman. Lettre donc tapée, vous savez, sur ces vieilles machines. Je vous en ferai une photocopie si vous voulez quand on se rencontrera. Les vieilles Remington. Et il évoque ceci. Et je lis donc simplement ce petit passage de sa lettre et qui concerne le cheikh Bentounes. Avec eux, je file après déjeuner à Mostaganem, où je l'ai entrevue la plus marquante de cette année, avec le cheikh de la Zaouia, Bentounes. C'est celui qui avait donné l'interview publiée dans Le Lien au sujet de la mère Teresa. Je lui avais fait savoir que j'aimerais le rencontrer. Il m'a aussitôt reçu avec une extrême amabilité et se disant très honoré de recevoir pour la première fois depuis l'indépendance la visite d'un responsable religieux chrétien. Jeune homme de 30 ans, au plus, ce chef spirituel est d'une profondeur extraordinaire et en même temps ouvert à tout ce que les autres courants religieux portent de meilleur. Le fondement de sa voix est l'amour universel. Musulman dans l'âme, il est le prototype d'un islam de dialogue et de fraternité. Sa confrérie est répandue dans le monde entier et il rencontre partout les leaders religieux, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, bouddhistes, animistes en Afrique, etc. 3 heures d'entretien qui m'ont fort impressionné. Nous nous reverrons certainement. Je me sens en grande affinité avec des hommes de cette trempe. Et il est bon de se dire que le cheikh Khaled Bentounes fait partie avec frère Vladimir, le père Gautron, le rabbin Moyal et d'autres du comité des responsables religieux de Vivre Ensemble à Cannes. La boucle, d'une certaine façon, est bouclée.
Merci beaucoup.
Alors, nouveau, il nous reste vraiment quelques secondes pour vous dire, continuez de nous suivre sur Facebook, d'aller visiter notre site, de dire que vous nous appréciez. Et on vous redit à la semaine prochaine.